Le Capital, sans les notes, livre premier, troisième section, chapitre grand 10, grand 2. Le capital affamé de surtravail. Boyard et fabricant. Le capital n'a point inventé le surtravail. Partout où une partie de la société possède le monopole des moyens de production, le travailleur, libre ou non, est forcé d'ajouter autant de travail nécessaire à son propre entretien, un surplus destiné à produire la subsistance du possesseur des moyens de production. Que ce propriétaire soit
Halos Hagathos,
Athénien, théocrate étrusque, citoyen romain, baron normand, maître d'esclaves américains, boyard valak, seigneur foncier ou capitaliste moderne, peu importe. Avant d'aller plus loin, constatons d'abord un fait. Quand la forme d'une société est telle, au point de vue économique, que ce n'est point la valeur d'échange, mais la valeur d'usage qui y prédomine, le surtravail est plus ou moins circonscrit par le cercle de besoins déterminés. Mais le caractère de la production elle-même n'en fait point naître un appétit dévorant. Quand il s'agit d'obtenir la valeur d'échange sous sa forme spécifique, par la production de l'or et de l'argent, nous trouvons déjà dans l'Antiquité le travail le plus excessif et le plus effroyable. Travailler jusqu'à ce que mort s'en suive devient alors la loi. Qu'on lise seulement à ce sujet Diodore de Sicile. Cependant, dans le monde antique, ce sont là des exceptions. Mais dès que des peuples, dont la production se meut encore dans les formes inférieures de l'esclavage et du servage, sont entraînés sur un marché international dominé par le mode de production capitaliste, et qu'à cause de ce fait, la vente de leurs produits à l'étranger devient leur principal intérêt, dès ce moment, les horreurs du surtravail, ce produit de la civilisation, viennent s'enter, note de la donneuse de voix, ENTER, se greffer, fin de la note de la donneuse de voix. Donc dès ce moment, les horreurs du surtravail, ce produit de la civilisation, viennent s'enter sur la barbarie de l'esclavage et du servage. Tant que la production dans les États du Sud de l'Union américaine était dirigée principalement vers la satisfaction des besoins immédiats, le travail des nègres présentait un caractère modéré et patriarcal. Mais à mesure que l'exportation du coton devint l'intérêt vital de ces États, le nègre fut surmené et la consommation de sa vie en 7 années de travail devint partie intégrante d'un système froidement calculé. Il ne s'agissait plus d'obtenir de lui une certaine masse de produits utiles. Il s'agissait de la production de la plus-value quand même. Note de la donneuse de voix. Dans le texte d'origine en allemand, on lit « Es galt nun der Produktion des Mehrwerts selbst », c'est-à-dire il s'agissait maintenant de la production de la plus-value elle-même. Fin de la note de la donneuse de voix. Donc il ne s'agissait plus d'obtenir de lui une certaine masse de produits utiles, il s'agissait de la production de la plus-value elle-même. Il en a été de même pour le cerf, par exemple, dans les principautés danubiennes. Comparons maintenant le surtravail dans les fabriques anglaises avec le surtravail dans les campagnes danubiennes, où le servage lui donne une forme indépendante et qui tombe sous le sens. Étant admis que la journée de travail compte 6 heures de travail nécessaire et 6 heures de travail extra, Le travailleur libre fournit au capitaliste 6 fois 6 ou 36 heures de surtravail par semaine. C'est la même chose que s'il travaillait 3 jours pour lui-même et 3 jours gratis pour le capitaliste. Mais ceci ne saute pas aux yeux. Surtravail et travail nécessaire se confondent l'un dans l'autre. On pourrait en effet exprimer le même rapport en disant par exemple que l'ouvrier travaille dans chaque minute 30 secondes pour le capitaliste et 30 pour lui-même. Il en est autrement avec la corvée. L'espace sépare le travail nécessaire que le paysan valaque, par exemple, exécute pour son propre entretien, de son travail extra pour le boyard. Il exécute l'un sur son champ à lui et l'autre sur la terre seigneuriale. Les deux parties du temps de travail existent ainsi l'une à côté de l'autre d'une manière indépendante. Sous la forme de corvée, le surtravail est rigoureusement distinct du travail nécessaire. Cette différence de forme ne modifie assurément en rien le rapport quantitatif des deux travaux. 3 jours de surtravail par semaine restent 3 jours d'un travail qui ne forment aucun équivalent pour le travailleur lui-même, quel que soit leur nom, corvée ou profit. Chez le capitaliste, cependant, l'appétit de surtravail se manifeste par son âpre passion à prolonger la journée de travail outre mesure. Chez le boyard, c'est tout simplement une chasse aux jours corvéables. Dans les provinces danubiennes, la corvée se trouvait côte à côte des rentes en nature et autres redevances. Mais elle formait le tribut essentiel payé à la classe régnante. Dans de pareilles conditions, la corvée provient rarement du servage. Mais le servage, au contraire, a la plupart du temps la corvée pour origine. Ainsi en était-il dans les provinces roumaines. Leur forme de production primitive était fondée sur la propriété commune, différentes cependant des formes slaves et indiennes. Une partie des terres était cultivée comme propriété privée par les membres indépendants de la communauté. Une autre partie, l'ager publicus, était travaillée par eux en commun. Les produits de ce travail commun servaient d'une part comme fonds d'assurance contre les mauvaises récoltes et autres accidents, d'autre part comme trésor public pour couvrir les frais de guerre, de culte et autres dépenses communales. Dans le cours du temps, de grands dignitaires de l'armée et de l'Église usurpèrent la propriété commune et avec elle les prestations en usage. Le travail du paysan, libre cultivateur du sol commun, se transforma en corvée pour les voleurs de ce sol. De là naquirent et se développèrent des rapports de servage qui ne reçurent de sanctions légales que lorsque la libératrice du monde, la Sainte Russie, sous prétexte d'abolir le servage, l'érigea en loi. Le Code de la corvée, proclamé en 1831 par le général russe Kisselev, fut dicté par les boyards. La Russie conquit ainsi du même coup les manias des provinces du Danube et les applaudissements du crétinisme libéral de l'Europe entière. D'après le « règlement organique », tel est le nom que porte ce code, tout paysan valaque doit au soi-disant propriétaire foncier, outre une masse très détaillée de prestations en nature, premièrement, 12 jours de travail en général. Deuxièmement, 1 jour pour le travail des champs. Et troisièmement, 1 jour pour le charriage du bois. En tout, 14 jours par an. Or, avec une profonde sagacité économique, on a eu soin d'entendre par journée de travail, non pas ce qu'on entend ordinairement par ce mot, mais la journée de travail nécessaire pour obtenir un produit journalier moyen. Et ce produit journalier moyen a été déterminé avec tant de rouerie qu'un cyclope n'en viendrait pas à bout en 24 heures. Le règlement, entre guillemets, lui-même, déclare donc, avec un sans-façon d'ironie vraiment russe, qu'il faut entendre par 12 jours de travail le produit d'un travail manuel de 36 jours. Par un jour de travail des champs, 3 jours, et par un jour de charriage de bois, 3 jours également. Total, 42 jours de corvée. Mais il faut ajouter à ceci ce qu'on appelle la jobagie, ensemble de prestations dues aux propriétaires fonciers pour services agricoles extraordinaires. Chaque village, en raison de sa population, doit fournir pour la jobagie un contingent annuel. Ce travail de corvée supplémentaire est estimé à 14 jours. Ces 14 jours, ajoutés aux 42 ci-dessus, forment ainsi 56 jours de travail par an. Mais l'année agricole ne compte en Valaquie que 210 jours à cause du climat. Si l'on en déduit 40 jours pour dimanches et fêtes, 30 en moyenne pour mauvais temps, soit 70 jours, il en reste 140. Le rapport du travail de corvée au travail nécessaire, 56/84 ou 66/2 %, exprime un taux de plus-value beaucoup moins élevé que celui qui règle le travail des ouvriers manufacturiers et agricoles de l'Angleterre. Mais ce n'est encore là que la corvée prescrite légalement. Et le « règlement organique » entre guillemets, dans un esprit encore plus libéral entre guillemets, que la législation manufacturière anglaise, a su faciliter sa propre violation. Ce n'était pas assez d'avoir fait 54 jours avec 12. On a de nouveau déterminé de telle sorte l'œuvre nominale qui incombe à chacun des 54 jours de corvée, qu'il faut toujours un supplément à prendre sur les jours suivants. Tel jour, par exemple, une certaine étendue de terre doit être sarclée. Et cette opération, surtout dans les plantations de maïs, exige le double de temps. Pour quelques travaux agricoles particuliers, la besogne légale de la journée se prête à une interprétation si large que souvent cette journée commence en mai et finit en octobre. Pour la Moldavie, les conditions sont encore plus dures. Aussi, un boyard s'est-il écrié dans l'enivrement du triomphe, ouvrez les guillemets, les 12 jours de corvée du règlement organique s'élèvent à 365 jours par an. Fermez les guillemets. Si le règlement organique des provinces danubiennes atteste et légalise, article par article, une fin canine de surtravail, les Factory Acts, ouvrez la parenthèse, loi de fabrique, fermez la parenthèse, en Angleterre, révèle la même maladie, mais d'une manière négative. Ces lois réfrènent la passion désordonnée du capital à absorber le travail en imposant une limitation officielle à la journée de travail, et cela au nom d'un État gouverné par les capitalistes et les landlords. Sans parler du mouvement des classes ouvrières, de jour en jour plus menaçant, la limitation du travail manufacturier a été dictée par la nécessité, par la même nécessité qui a fait répandre le guano sur les champs de l'Angleterre. La même cupidité aveugle qui épuise le sol attaquait jusqu'à sa racine la force vitale de la nation. Des épidémies périodiques attestaient ce dépérissement d'une manière aussi claire que le fait la diminution de la taille du soldat en Allemagne et en France. Le Factory Act de 1850, maintenant en vigueur, accorde pour le jour moyen 10 heures. 12 heures pour les 5 premiers jours de la semaine, de 6 heures du matin à 6 heures du soir, sur lesquels une demi-heure pour le déjeuner et une heure pour le dîner sont prises légalement, de sorte qu'il reste 10 heures et demie de travail, et 8 heures pour le samedi, de 6 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, dont une demi-heure est déduite pour le déjeuner. Reste 60 heures de travail, 10 heures et demie pour les 5 premiers jours de la semaine, 7 heures et demie pour le dernier. Pour faire observer cette loi, on a nommé des fonctionnaires spéciaux, les inspecteurs de fabrique, directement subordonnés au ministère de l'Intérieur, dont les rapports sont publiés tous les 6 mois par ordre du Parlement. Ces rapports fournissent une statistique courante et officielle qui indique le degré de l'appétit capitaliste. Écoutons un instant les inspecteurs. Ouvrez les guillemets. Le perfide fabricant fait commencer le travail environ 15 minutes, tantôt plus, tantôt moins, avant 6 heures du matin, et le fait terminer 15 minutes, tantôt plus, tantôt moins, après 6 heures de l'après-midi. Il dérobe 5 minutes sur le commencement et la fin de la demi-heure, accordée pour le déjeuner, et en escamote 10, sur le commencement et la fin de l'heure accordée pour le dîner. Le samedi, il fait travailler environ 15 minutes après 2 heures de l'après-midi. Voici donc son bénéfice. Avant 6 heures du matin, 15 minutes. Après 6 heures du soir, 15 minutes. Sur le temps du déjeuner, 10 minutes. Sur le temps du dîner, 20 minutes. Total de la journée, 60 minutes, somme en 5 jours, 300 minutes. Le samedi, avant 6 heures du matin, 15 minutes, au déjeuner, 10 minutes, après 2 heures de l'après-midi, 15 minutes. Total du samedi, 40 minutes, profit de toute la semaine, 340 minutes, ou 5 heures 40 minutes. Ce qui, multiplié par 50 semaines de travail, déduction faite de 2 semaines pour jour de fête et quelques interruptions accidentelles, donne 27 journées de travail. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. La journée de travail est-elle prolongée de 5 minutes chaque jour au-delà de sa durée normale? Cela fournit 2 jours et demi de production par an. Fermez les guillemets. Une heure de plus gagnée en attrapant par-ci par-là et à plusieurs reprises quelques lambeaux de temps ajoute un 13e mois aux 12 dont se compose chaque année. Fermez les guillemets. Les crises pendant lesquelles la production est suspendue où on ne travaille que peu de temps et même très peu de jours de la semaine, ne change naturellement rien au penchant qui porte le capital à prolonger la journée de travail. Moins il se fait d'affaires, plus le bénéfice doit être grand sur les affaires faites. Moins on travaille de temps, plus ce temps doit se composer de surtravail. C'est ce que prouvent les rapports des inspecteurs sur la période de crise de 1857-58. Ouvrez les guillemets. On peut trouver une inconséquence à ce qu'il y ait quelque part un travail excessif, alors que le commerce va si mal. Mais c'est précisément ce mauvais état du commerce qui pousse aux infractions les gens sans scrupules. Ils s'assurent par ce moyen un profit extra. Fermez les guillemets. ouvrez les guillemets, au moment même, dit Leonhard Horner, où 122 fabriques de mon district sont tout à fait abandonnées, où 143 chaumes et toutes les autres travaillent très peu de temps, le travail est prolongé au-delà des bornes prescrites par la loi. Fermez les guillemets. Mr. Howell s'exprime de la même manière. Ouvrez les guillemets. Bien que dans la plupart des fabriques, on ne travaille que la moitié du temps, à cause du mauvais état des affaires, je n'en reçois pas moins, comme par le passé, le même nombre de plaintes sur ce que tantôt une demi-heure, tantôt trois quarts d'heure, sont journellement extorqués, snatched entre parenthèses, aux ouvriers sur les moments de répit que leur accorde la loi pour leur repas et leur délassement. Fermez les guillemets. Le même phénomène s'est reproduit sur une plus petite échelle pendant la terrible crise cotonnière de 1861-65. Ouvrez les guillemets. Quand nous surprenons des ouvriers en train de travailler pendant les heures de repas ou dans tout autre moment illégal, on nous donne pour prétexte qu'ils ne veulent pas pour rien au monde abandonner la fabrique et que l'on est même obligé de les forcer à interrompre le travail, ouvrez la parenthèse, nettoyage des machines, etc., fermez la parenthèse, particulièrement le samedi dans l'après-midi. Mais si les bras, entre guillemets, restent dans la fabrique quand les machines sont arrêtées, cela provient tout simplement de ce qu'entre 6h du matin et 6h du soir, dans les heures de travail légales, il ne leur a été accordé aucun moment de répit pour accomplir ces sortes d'opérations. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Le profit extra que donne le travail prolongé au-delà du temps fixé par la loi, semble être pour beaucoup de fabricants une tentation trop grande pour qu'ils puissent y résister. Ils comptent sur la chance de n'être pas surpris en flagrant délit et calculent que même dans le cas où ils seraient découverts, l'insignifiance des amendes et des frais de justice leur assure encore un bilan en leur faveur. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Quand le temps additionnel est obtenu dans le cours de la journée par une multiplication de petits vols, ouvrez la parenthèse, a multiplication of small thefts, fermez la parenthèse, les inspecteurs éprouvent, pour constater les délits et établir leurs preuves, des difficultés presque insurmontables, fermez les guillemets. Ils désignent aussi ces petits vols du capital sur les temps des repas et les instants de délassement des travailleurs sous le nom de, ouvrez les guillemets, petty pilferings of minutes, fermez les guillemets, petits filoutages de minutes, ouvrez les guillemets, snatching of few minutes, fermez les guillemets, escamotage de minutes. Ou bien encore, ils emploient les termes techniques des ouvriers, ouvrez les guillemets, nibbling and cribbling at meal times, fermez les guillemets. Note de la donneuse de voix, dans la traduction sous la responsabilité de Jean-Pierre Lefebvre, rognage et grignotage sur les temps de repas. Fin de la note de la donneuse de voix. On le voit, dans cette atmosphère, la formation de la plus-value par le surtravail ou le travail extra n'est pas un secret. Ouvrez les guillemets. Si vous me permettez, me disait un honorable fabricant, de faire travailler chaque jour 10 minutes de plus que le temps légal, vous mettrez chaque année 1000 livres sterling dans ma poche. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Les atomes du temps sont les éléments du gain. Fermez les guillemets. Rien n'est plus caractéristique que la distinction entre les full times, entre guillemets, les ouvriers qui travaillent la journée entière, et les half time entre guillemets. Les enfants en dessous de 13 ans qui ne doivent travailler que 6 heures. Le travail n'est plus ici que du temps de travail personnifié. Toutes les différences individuelles se résolvent en une seule. Il n'y a plus que des « temps entiers » entre guillemets et des « demi-temps » entre guillemets.